il y a 2 mois et je suis tombé malade. Une fièvre 40 et plus, et ça faisait longtemps que je n'avais pas été malade comme ça. Et j'ai téléphoné à Clément, je lui ai envoyé un message, j'ai dit je pense que ça ne va pas le faire, je ne pourrai pas être là. Donc merci à celui qui a pu me remplacer au pied levé. Mais ça fait plaisir d'être ici maintenant et de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous. Alors je pense que vous avez certainement entendu parler, vous, d'histoires de personnes perdues en forêt. C'est quand même quelque chose de dramatique, hein. Quand il y a des personnes qui sont perdues en forêt, peut-être un jour, 2 jours, une semaine, mais quand ça dépasse la semaine, alors parfois c'est plus longtemps et là c'est inquiétant. Quelle angoisse pour des personnes qui ont des proches qui se sont perdus. Essayer de trouver une personne dans plusieurs hectares de végétation, c'est comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Très difficile. Alors ça peut être un enfant, là c'est grave, ou peut-être une personne malade, des personnes parfois qui ont la maladie d'Alzheimer, on entend des histoires comme ça, ils se perdent, on ne sait plus où ils sont. Parfois des touristes qui ne connaissent pas bien la région. Alors, aussitôt qu'on rapporte la disparition d'une personne qui est perdue aux autorités, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le branle-bas de combat. Des équipes se mobilisent. Il n'y a pas de temps à perdre. Des secouristes partent à leur recherche. On organise des fouilles d'abord sur la terre, hein, sur terre, des battues. Dans certains cas, on a besoin de prendre des hélicos parce qu'il faut survoler des zones boisées difficiles d'accès. Et souvent, on utilise des chiens. Et ce genre de mission peut être très compliquée, parfois même risquée. Mais imaginez la joie quand des personnes perdues sont retrouvées. Voyez l'image, on saute dans les bras les uns des autres et finalement ils sont retrouvés. Et pensez par contre, pensez à la déception si on abandonne les recherches trop vite. Imaginez par exemple des gens perdus qui découvriraient un jour que pendant le temps qu'ils étaient égarés, personne ne s'était donné la peine de les chercher. Imaginez cela. Imaginez qu'on ait laissé des personnes sans secours, des personnes livrées à elles-mêmes pendant que ceux qui auraient dû agir décident de s'occuper à autre chose. Ça serait triste, non? Ça serait, je dirais même, révoltant. Alors aujourd'hui, dans notre texte, il va être question de mission secours, d'une opération sauvetage, si on veut. C'est le titre que j'ai donné au message. Alors, on va prendre le temps de lire le texte qui est très court. C'est notre texte pour ce matin, cet après-midi. Il se trouve à la toute fin de la lettre de Jacques au chapitre 5. Alors, on va lire ensemble. Et j'aimerais qu'on se lève pendant la lecture de la parole de Dieu. On va lire les versets 19 et 20. C'est pas très long. Et je lis. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égara le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la clarté de ta parole. Merci Seigneur parce que c'est une parole qui a traversé les siècles, les cultures, les époques, qui nous est parvenue et c'est une parole pour nous aujourd'hui. Seigneur, je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui tu veux nous interpeller par ta parole. S'il te plaît, dispose nos cœurs pour entendre ta parole. Applique cette parole par la puissance du Saint-Esprit pour qu'elle nous parle aujourd'hui. Et permets, Seigneur, que ton œuvre se fasse parmi nous pour que nous soyons des personnes changées et transformées et des personnes qui voient Jésus encore plus clairement dans sa parole. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Alors, l'épître de Jacques Vous allez finir aujourd'hui la série dans Jacques. L'épître de Jacques, c'est la seule contribution au canon du Nouveau Testament du demi-frère de Jésus. Sa seule contribution. Alors on sait, Paul a écrit 13 lettres. Jean nous a laissé 5 livres. Pierre nous a laissé 2 épîtres. Et Jacques, lui, nous a laissé qu'une seule lettre. Une seule. Mais quelle lettre ! Quelle lettre ! Vous l'avez découvert depuis le début de votre série. Quelle lettre ! Une lettre qui met l'accent sur la vie pratique. Vous avez remarqué ? La vie pratique. Jacques est préoccupé par l'obéissance. Jacques s'intéresse au vécu chrétien. Et dans sa lettre, Jacques n'a pas comme objectif de développer de grands concepts théologiques comme par exemple l'élection ou la prédestination à la manière de l'apôtre Paul. La préoccupation de Jacques, elle est ailleurs. Jacques veut encourager les chrétiens à vivre les grandes vérités de l'Évangile concrètement. Vivre dans la vie de tous les jours. Et ça, je pense que ça nous intéresse. C'est ça qu'on veut, vivre à tous les jours la foi chrétienne. Alors, il termine son épître sur une note pratique. On n'aurait pas pu s'attendre à autre chose de Jacques, n'est-ce pas ? Les 2 derniers versets de Jacques sont en fait un résumé de toute sa lettre, quand on y pense bien. Et là, ça nous fait réfléchir. Des hommes, des femmes, des enfants. Voilà de quoi Jacques nous parle en terminant sa lettre. S'occuper des gens. Il y a de quoi réfléchir. Notre priorité en tant que membre de l'Église, ce sont les gens. Ce sont des personnes. Plus que des structures, plus que des programmes, plus que des statistiques. S'occuper des personnes. Jacques s'intéresse aux personnes. C'est important pour nous. Nous aussi, on veut s'intéresser aux gens. On veut se poser la question, mais comment est-ce qu'ils vont, les gens de l'Église ? Est-ce qu'ils sont en santé spirituelle ? Est-ce qu'ils sont en train de grandir ? Est-ce qu'ils sont en train de s'égarer ? S'intéresser aux personnes. Jacques, dans notre texte, veut sensibiliser l'Église à ceux qui sont éloignés de Dieu. Il veut qu'on s'intéresse à cela tout particulièrement aujourd'hui. Ceux qui se sont éloignés de Dieu, les égarés, les perdus. Et là, ça me fait penser à une petite histoire qui s'est passée il y a 15 ans dans notre famille. Je rembobine 15 ans en arrière. Notre fille cadette, Anne-Sophie, elle avait 3 ou 4 ans à l'époque. Et on l'avait laissée dans la maison, mais il y avait une porte ouverte à l'étage. Et à un moment donné, on appelle Anne-Sophie, on crie. Et elle ne répond pas. Elle n'était pas dans la maison. Et Janine et moi, on est sortis dans la rue. Et on s'est mis à crier son nom, dans la rue, comme ça. Les voisins ont dû nous prendre pour des fous. C'était en Belgique à l'époque. Là où on habitait, il y avait une rivière juste en face de la maison. Et on s'est dit, il ne faut surtout pas qu'elle aille dans cette direction-là. Elle aurait pu se noyer. Alors on regarde dehors. Rien du tout. On retourne à l'intérieur. On regarde à nouveau. Et elle était là, juste là, sur le balcon. En fait, elle n'avait pas bougé de là. Mais comme elle ne répondait pas, on pensait qu'elle n'était pas là. Oh, on a eu peur. On a eu vraiment peur. Mais quel soulagement, mes amis. On la pensait égarée. On la pensait perdue. Avez-vous remarqué dans la petite histoire que je viens de vous dire, notre réactivité, l'intensité de nos recherches. On n'a pas perdu de temps. On a fait tout ce qu'on a pu pour la trouver. On ne s'est pas préoccupé même de ce que les voisins allaient penser. On a crié dans la rue, les gens devaient nous regarder, pas grave. Alors, la lecture de Jacques, chapitre 5, versets 19 et 20, je pense, doit nous interpeller cet après-midi. Avons-nous, nous, ce genre de réactivité pour les personnes de l'Église qui s'égarent ? Est-ce qu'on a ce genre de réactivité quand une personne s'éloigne de Dieu ou s'est égarée loin de Dieu. Alors Jacques, ici, en terminant sa lettre, en fait, il révèle son cœur de pasteur. Il se soucie de ceux qui sont éloignés. Et nous. Imagine un instant. Imagine, tu es au courant que tel ou tel frère, telle sœur sont absents des réunions régulières et ça dure depuis assez longtemps. Est-ce que tu te poses la question, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font? Jacques ici t'encourage, Jacques m'encourage, Jacques nous encourage à nous poser ce genre de questions régulièrement. Qu'est-ce qu'ils font ceux qui ne sont pas là? Où est-ce qu'ils sont ceux qui ne sont pas là? Ce n'est pas qu'on veuille fliquer les gens à l'église, ce n'est pas ça. Mais notre amour doit nous amener à nous intéresser à ce qui se passe sincèrement dans la vie des autres. Si tu te rends compte que quelqu'un est en souci, n'attends pas que le pasteur intervienne. Ça, c'est notre réflexe à nous. Hein? Le pasteur va s'occuper. Ne te dis pas que quelqu'un d'autre doit bouger. Non, toi, mets-toi en mouvement. Toi, mets-toi en mouvement. Toi, fais quelque chose. Alors, c'est pas rare, si vous parlez au pasteur, c'est pas rare qu'un pasteur agonise en pensant à ceux qui sont éloignés de l'Église. Ça nous brise le cœur. On pleure parfois. Notre cœur a mal de voir des personnes qui étaient fidèles, qui suivent et qui tout à coup ne suivent plus. C'est difficile. Alors, vous entendez cela, un pasteur qui a le cœur brisé parce que ses brebis s'éloignent, c'est normal, ça, c'est ça être pasteur, évidemment. C'est vrai qu'on a la responsabilité du troupeau, c'est vrai. Mais voyez-vous, si on s'attend à ce que le pasteur à lui seul cherche, trouve et ramène tous les égarés, on va être déçu. C'est pas de cette manière-là que Dieu a voulu que son corps fonctionne. Voyez-vous cela? Dieu n'a pas prévu que le corps de Christ fonctionne de cette manière. Alors, j'ouvre une parenthèse, je parle de ce qu'on a vécu dans ma famille avec un de mes fils. Pendant un certain temps, il y a un de mes enfants qui s'est égaré loin du Seigneur. C'est dur. Quelle souffrance, mes amis. Tu investis, tu pries pour tes enfants, et arrivé à un certain âge, ils s'éloignent. Dur. Il faut être parent pour comprendre ça. Combien on a prié pour lui? Combien on a demandé aux frères et sœurs de l'Église de prier avec nous? Combien on l'a écouté? On a discuté avec lui? On a enseigné? Et Dieu l'a ramené. Mais comment? En utilisant d'autres chrétiens. Voyez-vous? Dieu ramène les gens en utilisant d'autres chrétiens. Alléluia! Donc, ramenez les égarés. Notre texte cet après-midi est très court, juste deux versets. Mais quand vous le lisez attentivement, vous vous rendez compte que ce texte soulève plusieurs questions importantes. En fait, qui sont ces frères dont Jacques parle ici? De qui on parle? C'est qui ces frères? Et est-ce que ce sont des chrétiens ou des non-chrétiens, ces frères, entre guillemets? Et de quelle mort est-il question dans le texte? Est-ce qu'on parle de la mort physique ou on parle de la mort spirituelle dans notre texte ici? Et puis, est-ce que Jacques enseigne que des chrétiens qui s'égarent peuvent perdre leur salut? Voyez-vous, il y a tout ça dans les deux versets là. Est-ce qu'il est question dans ce passage d'évangélisation des non-chrétiens ou d'une mission qui est destinée tout particulièrement à des croyants? Deux versets, mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout cela. Je pense qu'il faut remettre ces deux versets dans leur contexte si on veut bien comprendre l'enseignement de Jacques à la fin de son épître. Alors, ce qu'il faut dire, c'est ceci. Plusieurs de ces personnes à qui Jacques s'adressait, vous êtes d'accord avec moi, c'était des Juifs. Jacques était le pasteur de l'église de Jérusalem et son ministère concernait principalement les brebis perdues de la maison d'Israël, comme on lit dans les évangiles. Et donc Jacques appelle ses lecteurs « frères ». Il a raison. Ces personnes étaient tous des frères dans la chair. Tous des frères dans la chair. Plusieurs aussi étaient frères dans la foi, mais pas tous. Les gens, on peut supposer que les gens à qui Jacques écrit n'étaient pas nécessairement tous des chrétiens, même s'ils étaient tous, juifs. Il y en avait parmi eux, comme c'était le cas pour ceux à qui l'Épître aux Hébreux avait été écrit, il y en avait parmi ces juifs qui étaient un peu comme sur la clôture, entre les deux, encore un pied dans le judaïsme et un pied dans la foi chrétienne. Voyez-vous cela ? Entre les deux. Ces personnes étaient en grave danger. Elles étaient en train de s'égarer. Elles n'étaient pas encore nées de nouveau. C'étaient des personnes qui étaient encore confuses dans leur théologie. Alors, qu'est-ce que Jacques fait ici ? Jacques lance un vibrant appel à l'Église. Jacques dit aux frères et sœurs et à l'Église, « Occupez-vous de ces personnes-là. » Parce qu'en fait, ces personnes-là sont encore perdues. Même si elles assistent à vos réunions, même si ces personnes prient avec vous, même si elles donnent régulièrement leur offrande dans le panier à offrande, occupez-vous de ces personnes-là parce qu'elles sont en train de se perdre. Prenez à cœur le sort de ceux qui ne connaissent peut-être l'Évangile qu'en partie. Des personnes qui ne mettent pas encore en pratique et ne vivent pas encore l'Évangile, même si elles connaissent plein de trucs au sujet de l'Évangile. Alors, en plus de l'aspect doctrinal, il y avait sûrement parmi les personnes à qui Jacques écrit ici, il y avait certainement des gens qui se disaient croyants, mais qui ne vivaient pas encore comme des chrétiens. Voyez-vous cela ? Voyez-vous cela ? Jacques appelle les vrais croyants à intervenir en faveur de ceux qui se réclament de Jésus sans marcher vraiment dans la vérité. Vous cela ? Ce qui doit servir de baromètre pour déterminer si quelqu'un est chrétien, ce n'est pas seulement des paroles ou certaines pratiques extérieures qu'on peut voir. Jacques recherche des preuves de la présence de Jésus dans la vie de tous les jours chez ces gens-là, dans leur attitude, dans leur caractère, dans leur choix, dans les priorités. Jacques recherche ça. Voyez-vous cela ? Alors, ceux du chapitre 2 qui ne démontraient pas leurs œuvres, hein, parce que Jacques disait « la foi sans les œuvres est morte », ceux qui ne démontraient pas par leurs œuvres la réalité de leur foi, Jacques les décrit ici très clairement et il leur donne un nom, il les appelle des égarés. Et cette condition est grave. Pourquoi ? Parce qu'ils sont morts spirituellement, ils sont en danger de mourir éternellement. Leurs péchés ne sont pas encore couverts par le sang de Jésus. Ces professants ne connaissent pas encore le salut, même s'ils lisent la Bible, même s'ils vont à l'église, même si on a l'habitude de les appeler frères ou sœurs. Voyez-vous cela ? Alors, les deux derniers versets de la lettre de Jacques nous enjoignent, nous exhortent à ne pas être satisfaits de simples professions de foi dans l'église. Il ne s'agit pas simplement de dire « je suis sauvé ». J'ai fait une prière, je me suis avancé devant quand il y a eu un appel à la foi. Il ne s'agit pas que de cela, voyez-vous. Les deux derniers versets de Jacques doivent nous amener chacun personnellement ce matin à poser deux questions. Ou cet après-midi, je me trompe toujours, mais bon. On doit être amené à se poser deux questions. La première, on se la pose à soi-même et posez-vous-la. Sérieusement aujourd'hui, es-tu égaré ? Est-ce que toi, ça se pourrait cet après-midi que tu sois égaré ? Et la deuxième, on se la pose par rapport aux autres. Connais-tu quelqu'un qui s'est égaré ? Es-tu égaré ? Connais-tu quelqu'un qui s'est égaré ? Et pour les deux questions, il y a une autre question que Jacques a posé tout au long de sa lettre, et qui nous pose aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Voyez-vous, Jacques recherche des actions, du vécu, de la pratique. Si tu te rends compte que tu es égaré, si tu te rends compte que quelqu'un dans l'Église s'est égaré, qu'est-ce que tu vas faire? On recherche du vécu, de la pratique. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend dire que quelqu'un est égaré? Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte que nous-mêmes, on n'a peut-être pas encore connu comme il faut? Alors, notre passage peut parler d'égarement de trois manières différentes. Il y a trois manières de s'égarer ici. Première manière, on parle d'un égarement théologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça peut vouloir dire qu'à un moment donné, il y a une personne qui vient à l'Église et qui se pose la question, « Je ne sais plus si Dieu existe. Je ne sais pas si la Bible est vraie. Et si Jésus est Dieu. Ou si je suis sauvé encore par grâce. » Une personne qui met en cause l'enseignement chrétien de base. Un égarement théologique. Attention. Deuxième égarement. Un égarement moral. Je ne sais pas si je veux continuer à vivre comme je fais depuis que je viens à l'Église. Pourquoi pas vivre comme tout le monde après tout. Profiter de la vie. Je veux coucher avec cette fille, ce garçon. Je veux consommer de cette substance illicite. Pourquoi pas? Et ce qui est en cause ici, c'est le style de vie, la façon de vivre, la conduite. Mais il y a un troisième type d'égarement. C'est l'égarement relationnel. Et on voit cela dans les églises. Je m'isole. Je ne réponds plus aux messages que les amis de l'église m'envoient. J'accepte plus l'autorité dans l'Église. Je me retire, je coupe les ponts. J'ai envie de fréquenter d'autres personnes que ceux que je vois à tous les dimanches à l'Église. Je ne veux plus vivre la vie communautaire. Le peuple de Dieu est appelé à être vigilant, à ne pas laisser quelqu'un isolé et tout seul de cette manière-là. Trois manières de s'égarer, théologique, morale, relationnelle. Mais vous avez remarqué dans le texte de quelle manière ces trois égarements, on les règle. Les trois cas de personnes qui sont ramenées d'une seule manière. Avez-vous remarqué? Par la parole de Dieu, en disant la vérité de l'Évangile. Autant pour ceux qui s'égarent théologiquement que moralement ou que relationnellement. La parole de Dieu. On ramène quelqu'un qui s'est égaré dans sa doctrine en lui montrant pratiquement et patiemment les erreurs dans la Bible, dans les Écritures. On ramène quelqu'un qui s'est égaré dans son style de vie, dans sa conduite, en présentant les standards moraux de Dieu dans l'Évangile. Et celui et celle qui s'est égaré relationnellement, il doit revenir à Jésus en comprenant combien la Bible met un accent particulier sur la vie communautaire et combien ça c'est important. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous réciproquement, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Une manière de ramener avec l'Évangile. Pas du légalisme, pas il faut ci, il faut ça. L'Évangile, l'enseigner patiemment, le faire comprendre et montrer dans l'Évangile le fruit que la parole de Dieu doit produire dans nos vies. Alors, que ce soit un égarement moral, que ce soit un égarement théologique ou relationnel, vous avez peut-être remarqué ça dans le texte aussi, rien, absolument rien, va se passer si on reste les bras croisés, nous dit Jacques. Avez-vous vu ça? Il faut bouger. Il faut se mettre à l'œuvre. Imaginez un sauveteur en train de manger ses chips devant la télé pendant que des personnes perdues en montagne risquent de mourir. Alors, on lui a signalé la disparition d'un petit garçon ou d'un vieillard malade de la maladie d'Alzheimer. Mais lui, il n'en a rien à faire de ça. Qu'est-ce que vous penseriez de ce genre de réaction? On serait choqué de ce genre de réaction, surtout de la part d'un pompier ou d'un secouriste. Il faut se lever, il faut se bouger. se mettre à la recherche des personnes en danger, les secourir, leur montrer comment ils doivent retrouver leur chemin, passer à l'action. Et j'aimerais dire ceci. On passe à l'action même si on ne connaît pas le résultat de notre mission. Et il faut le dire, parfois l'issue de notre mission n'est pas celle qu'on espérait. La personne va continuer sur son chemin. On a pris du temps avec elle, on a montré la parole de Dieu, on a prié, on a aimé, et la personne va continuer sur son chemin. Parfois, il y a des personnes égarées qui ne vont pas revenir à Dieu. Et ça, c'est triste à mourir. Mais un sauveteur qui aura bougé pourra se dire qu'il a fait ce qu'il a pu, n'est-ce pas ? Il a fait ce qu'il a pu. Il a obéi au Seigneur. Et ça, c'est très important. Alors, je récapitule. Très rapidement. On accomplit notre mission et il y a une constatation qu'il faut faire. C'est que certaines personnes peuvent s'égarer. Ne soyez pas surpris si au fil du temps vous voyez des gens s'égarer. Certains peuvent s'égarer, autant les vrais chrétiens que les faux. Et notre responsabilité, c'est de tout faire pour les ramener par la grâce de Dieu. C'est d'imiter Jésus qui a laissé les 99 brebis pour aller chercher la petite qui s'était égarée. Et se dire que les résultats appartiennent à Dieu. Je rappelle ensuite comment ramener les gens. Comment on ramène les gens ? Par la parole de Dieu, en leur rappelant l'évangile de Jésus-Christ, en les aimant, en leur disant la vérité. Et c'est la parole de Dieu qui va ramener les égarés. Dieu va agir dans le cœur des personnes. Nous croyons que la parole de Dieu, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je résume aussi en redisant quel genre d'égarement on rencontre. On l'a vu déjà. On peut s'égarer de Dieu en commençant à en croire des mensonges. On peut s'égarer de Dieu en vivant d'une manière contraire aux standards de sainteté de Jésus. Et aussi, l'égarement peut se manifester quand une personne commence à s'isoler. Mes amis, si vous voyez que des gens commencent à s'isoler, intervenez, prenez des nouvelles. Priez, faites quelque chose, parce que c'est souvent le début d'un éloignement de Dieu. Et après, on a du mal à revoir ces personnes-là. Alors, je veux parler des effets de notre mission, c'est important. Quels sont les effets d'un engagement qu'on va prendre devant Dieu à ramener les égarés ? Est-ce qu'il y aura des effets ? Bien sûr qu'il y en aura. Il y aura des effets multiples. Ce genre de démarche a des effets multiples. Parlons d'abord du salut éternel. Parlons du pardon des péchés. Parlons du retour à Dieu pour celui qui est ramené. Alors ça, c'est les effets dans la vie de celui qui était égaré. Un retour à Dieu. Mais parlons maintenant d'une personne qui est perdue, elle. Alors, et la personne qui la ramène. Ben, cette personne-là, elle va vivre un bonheur et une joie et une bénédiction incomparables. Imaginez-vous être l'instrument de Dieu pour ramener quelqu'un qui est égaré. Imaginez la joie que cela procure. Déjà, on a beaucoup de joie quand une personne qui se perd en forêt est retrouvée. Si c'est votre enfant, vous sautez de joie, vous lui sautez dans les bras, vous êtes toute heureuse, tout heureux. Et là, pensez à quelqu'un qui est ramené spirituellement, la joie de la personne qui a été l'instrument de Dieu pour ça. Je vais conclure maintenant. C'est sûr, certain, c'est inévitable, parmi ceux qui fréquentent l'Église, parmi les gens qui ont commencé à écouter la parole de Dieu, il va y en avoir qui vont s'égarer. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais ça existe, ça existera. Il y en a qui vont s'égarer. Alors notre texte aujourd'hui nous montre qu'il y a mieux à faire que de subir ou que d'accepter comme une sorte de fatalité que ces gens-là quittent l'Église et après on ne les revoit plus et on ne s'occupe plus du tout d'eux. Il y a mieux à faire que ça. Jacques nous dit cet après-midi qu'on peut faire quelque chose. On peut réagir. On peut bouger. Il faut savoir qu'il y a des égarés qui ne viendront, qui reviendront sans doute jamais. Par contre, le texte nous laisse comprendre et croire qu'il y en a qui vont revenir. Voilà pourquoi on doit se mettre à l'œuvre. Il y a des gens actuellement qui se sont éloignés et qui vont revenir. Dieu a prévu en plus, c'est encore meilleur ça, Dieu a prévu d'utiliser plusieurs d'entre nous pour les ramener. Ces gens-là, ils vont revenir parce qu'il y a un frère, une sœur qui va se lever et qui va aller vers eux. Et ces gens vont revenir. Et je termine avec un témoignage. Quand je me suis converti, il y avait une jeune femme qui habitait dans mon quartier et elle s'est convertie, elle aussi, quelques semaines après moi. Et elle s'est faite baptiser, en fait, quelques mois après mon baptême et celui de mon frère. C'était le baptême qui a suivi le nôtre, à mon frère et à moi. Alors, après quelques temps, à l'église, on a perdu de vue cette fille-là. Elle a complètement disparu de nos radars. Et on s'est souvent demandé, mais où est-ce qu'elle est maintenant ? Et on est resté sans nouvelles d'elle très très longtemps. Et puis, on a appris plus tard, parce que cette fille venait de notre quartier, on a appris plus tard qu'elle avait déménagé aux États-Unis. Elle s'était retrouvée en Californie et elle avait atterri dans une secte, je ne sais pas si vous avez entendu parler, l'ordre du Temple solaire. Ils se sont suicidés dans le Vercors. Il y a eu des meurtres aussi, des gens qui sont morts au Québec et en Suisse également. Elle était dans cette secte-là, cette fille-là. 20 ans d'égarement. Pourtant, il y a une quinzaine d'années, quand j'étais au retour dans mon église d'origine au Québec, à Drummondville, qu'est-ce que j'aperçois au culte un matin ? Eh bien oui, ma grande surprise, c'était Linda. Linda qui était là avec son mari, toute souriante, heureuse. Elle avait été ramenée à Jésus après des années d'égarement, des années de déboire. Quelle joie, mes amis ! Son âme avait été sauvée de la mort. Alors combien ceux qui l'ont ramenée ont dû se réjouir ? Hein ? Quelle bénédiction ils ont été pour Linda, qui n'a pas continué dans cette secte-là, qui serait peut-être morte aujourd'hui. Quelle bénédiction ils ont été pour son mari. Quelle bénédiction ils ont été pour notre Église. Voyez-vous, question pour nous. Est-ce que tu n'aimerais pas, toi, connaître ce genre de joie ? Ramener un égaré dans le chemin de la foi ? Est-ce que tu ne voudrais pas, toi, connaître ce genre de bénédiction ? Jacques nous encourage à prier. Jacques nous encourage à se mettre à leur recherche activement, ceux qui sont égarés. Jacques nous exhorte à lancer une opération secours, à ramener ces personnes à Dieu pour la gloire de Dieu. Et Jacques 5, 19 à 20 nous invite, nous les chrétiens ici aujourd'hui, à devenir les instruments de Dieu pour participer à ce genre de mission secours. Magnifique. Alors, on termine maintenant. Le texte de Jacques 5 nous invite à la prière. Le passage qui vient juste avant celui de la fin ici, c'est un passage qui a parlé de prière. Vous avez sans doute prêché sur ce texte-là la dernière fois. Alors, pour conclure, est-ce qu'on pourrait maintenant juste prier ? Deux sujets de prière. Prier pour notre propre cœur. Seigneur, garde-moi de l'égarement. Est-ce que quelque part, je suis en train de m'égarer ? Garde-moi. Deuxième sujet. Pour les personnes que nous connaissons qui se sont égarées. Et là, réfléchissez. Des amis, des voisins, des enfants, des gens de votre famille, des collègues de travail. Priez pour ton cœur, priez pour des personnes que vous connaissez, elles se sont égarées. Je relis le texte, après on prendra un moment de silence et on va prier chacun personnellement. Je vais terminer ensuite par la prière. Mais je lis le texte à nouveau. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Prenons un moment dans le silence et moi je vais terminer ensuite par la prière. Réfléchissons à nous-mêmes, réfléchissons aux gens autour de nous qui se sont égarés. Prions. Ô Seigneur, notre grand roi, je te remercie, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui ramène. Tu ramènes d'entre les morts. Tu vas chercher cette petite brebis égarée. Tu n'as de cesse de ramener des gens à toi, parce que c'est ton cœur qui vibre pour ces personnes, tu les aimes. Seigneur, nous voulons te prier aujourd'hui pour nos propres cœurs qui sont si promptes à s'égarer. Seigneur, s'il se trouve ici une personne qui est entre deux, qui n'a pas encore compris l'Évangile et qui est en danger de s'égarer, je prie s'il te plaît, Seigneur, que cette personne ne reparte pas d'ici sans avoir fait la paix avec toi, s'être mis en règle avec toi, revenir à Jésus. Et Seigneur, pour nos proches, nos bien-aimés, ceux qui autrefois venaient et écoutaient la parole de Dieu et qu'on ne voit plus, qui se sont éloignés, ô Seigneur, des membres de notre famille, des amis, des voisins, des proches, ô Seigneur, s'il te plaît, envoie-nous vers eux, donne-nous des paroles pour ces gens, attire-les à toi, ramène-les. Seigneur, nous voulons voir plein de personnes égarées revenir à toi. Nous voulons, te glorifier de cette manière-là et voir beaucoup de péchés être couverts par ton pardon et vivre et connaître cette joie indicible d'être ton instrument pour ramener des gens à toi. Seigneur, continue de nous travailler par ta parole tout au long de la semaine. Continue de nous parler au nom de Jésus. Amen.